Dieu ne se contente pas de ce que tu es. Dieu ne se contente pas de ce que nous sommes, de qui je suis. Ces paroles n'ont pas provoqué un effondrement comme lors de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001, à New York, vous vous rappelez, c'est aujourd'hui le 11 septembre. Ces paroles ont déclenché le réveil de la Drôme il y a maintenant 100 ans, en 1922. Le matin vient. C'est le bouquin qui raconte l'histoire de ce réveil de la Drôme. J'ai lu ce bouquin il y a quelques années, et puis ce printemps, en rangeant quelques cartons suite à nos déménagements, je l'ai retrouvé, puis on en avait partagé avec Vincenzo quelques pages et quelques éléments. On se trouve avec ce récit quelques années après la fin de la Première Guerre mondiale. L'église de la région de la Drôme était désertée. Bien des temples étaient complètement à l'abandon. La Drôme, vous vous arrivez à situer, vous descendez en France, à gauche en descendant, en dessous de Valence. Voilà, ça situe en gros la Drôme. Dans la région, il y avait bien quelques pasteurs, pour la plupart des jeunes pasteurs, voilà, qui étaient attristés de la situation à tel point qu'ils avaient décidé de prendre une année pour étudier les réveils qu'il y avait eu, soit dans la région, soit dans d'autres pays, prendre du temps dans la prière pour qu'il y ait un réveil dans leur région. Et on va le découvrir, Dieu était à l'œuvre pour mettre en route ce réveil. Il se trouve que William Bordigoni, mon grand-père, était pasteur officier de l'armée du salut à Valence. Donc c'est une histoire de famille que je vous raconte. Et il invite son papa, donc mon arrière-grand-père, qui s'appelait Victor, pour une série de prédications, une série de soirées, en fait, sur la sanctification. Des soirées qui ont attiré beaucoup de monde, paraît-il, et dont le président du synode de la région. Et suite à ces rencontres, le président du synode a demandé à mon arrière-grand-père de reprendre une paroisse désertée de la région. Ça s'appelle un petit village, ça s'appelle La Motte, en fait. J'y suis jamais allé, mais peut-être qu'un jour j'irai là-bas. Et dans cette paroisse désertée, mourante, abandonnée, il y a eu tout plein de conversions qui se sont passées. Des petits groupes de maisons qui se sont mis en route, des conversions qui ont eu lieu. Ils ont restauré le temple, il y avait beaucoup de monde qui venait aux rencontres, malgré que ça soit en pleine période des moissons où tout le monde est très occupé dans la région. Ils ont trouvé du temps et des moyens pour restaurer le temple, pour se remettre en route. Et c'était vraiment un réveil de foi, en fait, qui s'est passé. Santé. Ce à quoi toutes les églises aspirent, je pense. J'ai entendu un « Amen » général. C'est juste. Alors je vous propose de. Bon, alors vraiment, on va survoler un peu l'histoire d'un réveil dans le deuxième livre du Chronique avec le roi Ézéchias, pardon. Alors on va trouver quelques similitudes comme ça entre les éléments que je vais partager sur le réveil de la Drôme et ce qui s'est passé dans ce temps bien plus ancien. Ézéchias avait 25 ans. Il fait ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et ça, c'est déjà pas mal, quoi. C'est un bon début, disons. Ça permet quand même d'aller un poids plus loin. Première action de son règne, il répare les portes du temple. Abandonné aussi. Le temple de Jérusalem était abandonné. Première chose, il remet en œuvre les portes, parce que quand on arrive à ouvrir les portes, on peut aussi entrer après. Un temple à l'abandon, les portes avaient été fermées, scellées par son prédécesseur. Ensuite, il réunit les Lévites, donc les leaders de louanges. Il a invité tout le groupe Spotify à venir pour leur parler. Et les sacrificateurs, dont on en a un peu moins ces temps, en fait. Sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel. Nos ancêtres ont été infidèles, ils se sont détournés de Dieu, ils ont fermé les portes, ils ont éteint les lumières. Moi, j'ai à cœur de conclure une alliance avec l'Éternel, dira Ézéchias. Ézéchias coupe l'hérédité, il rompt la chaîne de malédiction, il change de direction. Hier, c'était hier, aujourd'hui, on va faire autrement. Nouvelle alliance avec Dieu. Cessez d'être négligent, vous avez été choisi par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service. Fort, hein ? On peut se le prendre aussi pour nous, celui-là. Vous avez été choisi, nous avons été choisis par l'Éternel pour nous tenir devant lui à son service. Ces mots me rappellent des paroles que Jésus a prononcées aussi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, 16, si jamais. Les Lévites, les sacrificateurs font leur travail, ils jettent à la déchetterie du coin tout ce qui était impur dans le temple. Tout est remis en fonction comme le roi Ézéchias l'a ordonné. Le culte est réinstauré, sacrifice de louange, cœur généreux, surabondance de sacrifices. Si vous lisez ça, il y a des centaines et des centaines d'animaux qui sont sacrifiés. Je veux dire, je ne sais pas comment ils arrivent à faire tout ça, en fait. Célébration de la Pâque, convocation de tout Israël. Alors, il y a beaucoup de gens qui rejettent l'invitation, qui ne sont pas d'accord de s'y rendre, mais il y a tout un peuple nombreux, qui se rassemble dans un mouvement d'humilité, de sanctification. Ézéchias prie pour le peuple. Ézéchias parle au cœur des Lévites pour qu'ils aient le discernement de Dieu. Et je crois que ça, c'est une chose qu'on peut vraiment retenir. Que Dieu ou que les responsables des communautés parlent au cœur des gens pour qu'ils aient vraiment le discernement de ce que Dieu est en train de faire. Une telle fête qui décide de la prolonger de 7 jours. Pas mal, hein ? Vous avez congé un jour, puis on vous dit, oh, allez, on prolonge de 7 jours encore. Ça devient intéressant, ça, non ? À la fin, les Lévites et les sacrificateurs prient pour le peuple, et il est dit que leur prière fut entendue par l'Éternel qui est dans les cieux. Ensuite, réveil, purification se poursuit dans tout Juda. Si on regarde la suite de l'histoire de ce roi Ézéchias, on découvre un épisode qui aurait pu être la fin de son règne. Il y a un roi d'Assyrie, Sennachérib, ça vous dit quelque chose ? Voilà, qui arrive pour attaquer Jérusalem. Ézéchias reconstruit les murailles, bouche les brèches, organise l'armée. Sennachérib insulte Dieu. Ézéchias et Ésaïe se retrouvent, ils prient ensemble et l'Éternel envoie un ange, un envoyé, qui extermine le camp assyrien. Et Sennachérib retourne chez lui, la honte sur le front, il est marqué dans ce texte, la honte sur le front. Quand on prend position contre Dieu, il y a des conséquences en fait. Alors que faut-il pour un réveil ? Après ce très rapide survol de l'histoire d'Ézéchias et du réveil qu'il a suscité en Juda et dans Israël, quelques éléments en lien avec notre histoire de la Drôme. Comme je vous le disais, dans les deux situations, on voit des lieux de culte qui avaient été désertés, abandonnés. Dieu n'était plus au centre de la vie des gens. Il se trouve que les pasteurs, en début de ministère, toute allusion serait complètement fortuite en fait, ne pouvaient se contenter de cette situation et aspiraient à un renouveau, à un réveil, comme ils avaient étudié, entendu parler dans plein d'endroits du monde. Comme pour nous, hein, c'est toujours ailleurs, c'est toujours aux États-Unis, c'est en Angleterre, c'est en Australie, c'est en Suisse allemande, c'est en Corée. Mais non, c'est aussi pour nous, en fait. C'est aussi pour nous, ici en Suisse romande, à Lausanne, à Morges et partout, en fait. Là où on se centre sur Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Premièrement, une prise de conscience. Une prise de conscience. Comme pour tout changement, il faut une prise de conscience. J'allais dire, comme une urgence. Quelque chose qu'on ne peut pas attendre pour faire, en fait. Si on ne le fait pas, c'est cuit, en fait. Et c'est ce qui se passe pour eux. Il y a une prise de conscience. Si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, c'est la fin de l'Église, en fait. Ils ont réalisé ça. Tout d'un coup, Dieu leur a mis ça à cœur. Et dans cette urgence, les pasteurs se mettent à prier pour un réveil. Ils étudient des textes, les autres mouvements de réveil. Comment ça s'est fait ? Ils se préparent. Et pendant ce temps, il y a un outsider qui fait son arrivée dans la région. Et comme je vous le disais, mon arrière-grand-père prend son poste à la Motte. Et cette aspiration des pasteurs, plus cet évangéliste un peu atypique, vont faire bon ménage, si je peux dire comme ça. C'est lors d'une pastorale, en novembre 1922 à Cray, que le mouvement va s'engager. Les pasteurs présents savaient ce qui s'était passé à la Motte, ils en avaient entendu parler. Ils étaient interpellés par ce qui s'est passé là-bas. Et il y avait comme une attente. Et après 3 jours de pastorale, presque à la fin, juste avant de prendre la Sainte-Seine, Victor Bourdigoni, donc mon arrière-grand-père, il prend la parole, tout tremblant. Et il dit ceci, je vais vous le lire dans l'extrait de ce bouquin. C'est mon arrière-grand-père qui parle à ses collègues pasteurs. Il leur dit ceci, « Mes frères, mes amis, depuis 3 jours je suis avec vous et je vous entends parler de Dieu et de votre ministère, mais je me demande en vous écoutant si vous savez qui est Dieu. Et ce que c'est que le ministère ?» Il s'arrêta, se mit à genoux et il continua. Dieu est saint, ses exigences sont saintes. Croyez-vous qu'il peut se contenter de ce que nous sommes, nous qu'il a appelés à son service? Dieu n'a pas changé, dans son amour ni dans sa puissance pour sauver. C'est nous qui avons changé, nous qui hésitons à le prendre au mot. Si nous croyons, nous verrons s'accomplir la promesse de Dieu. Et il est dit dans la suite, l'émotion était profonde, des prières d'humiliation, de consécration s'élevaient de toutes parts, des réconciliations s'opéraient entre ceux qui avaient eu quelques petits problèmes entre eux, ça arrive jamais dans les pastorales d'ailleurs. Moment très beau, très simple, de l'action souveraine de Dieu, reprenant en main ses serviteurs pour une tâche nouvelle. Alors bien sûr, c'est un peu 1922, hein, voilà, donc c'est écrit dans ces termes-là. Mon arrière-grand-père est invité le soir même à prêcher dans le temple de la ville où il était invité, et il résume ainsi le début de ce réveil. Dieu ne se contente pas de ce que nous sommes. Le récit de son arrivée à la Motte, le temple en ruine, les fidèles qui sont comme dispersés, sans rencontre, sans pasteur, et puis l'organisation de quelques temps de prière, le réveil qui se produit dans ces moments-là, des conversions nombreuses, le temple qui est restauré, élan de foi, de générosité, d'engagement. Et je vous cite encore une toute petite phrase choc en fait. Dieu a en horreur les gens religieux. Il ne réclame pas des protestants ou des évangéliques, il réclame des témoins. Le réveil est venu, la moisson est prête. Il faut entrer dans la moisson. De nouveau, c'est un langage un peu directif, mais ça correspond à une période aussi. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on formulerait ça un tout petit peu différemment. Mais des fois, c'est intéressant de laisser des choses un peu rugueuses comme ça, parce que ça nous frotte un peu, puis ça fait un peu un peeling sur notre peau évangélique. Je pense que je me serais sûrement bien entendu avec mon arrière-grand-père, même si j'aurais sûrement dit les choses un petit peu différemment de lui. Alors il va falloir encore une étincelle. C'est l'étincelle du Saint-Esprit qui va mettre le feu aux poudres du réveil. Parce que je crois qu'on ne peut pas faire les choses par nous-mêmes, en fait. Hein. Dieu prépare les cœurs, Dieu prépare le terrain, mais si on ne laisse pas le Saint-Esprit agir, je pense que là on passe. On y va par nos propres forces et je pense qu'on n'est pas... Les pasteurs présents à cette pastorale commencent alors à se saisir du réveil. Et je trouve intéressant l'idée de se saisir du réveil. Hein, on le prend en main. On y aspire tellement qu'on adhère. Et pour reprendre un passage, un des pasteurs revient de cette fameuse pastorale là qu'il a eue, prépare sa prédication pour le lendemain et à la fin, il déchire tout en fait. Et puis il se met devant Dieu, et puis il lui dit, le Seigneur lui parle et lui dit, « Empare-toi du réveil, saisis-le par la foi, l'heure, elle est venue, proclame le réveil, proclame le réveil. » lendemain, dans le culte, il dit ceci: le réveil vient d'éclater dans cette église et j'en suis le premier converti. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et il s'est saisi du réveil. Il le proclame et il en est vraiment partie prenante. C'est ainsi qu'a débuté cette aventure, en fait, du réveil qui a donné naissance au brigadier de la Drôme. Peut-être vous avez entendu parler de ça, ou pas. Et celui qui présidait toutes les rencontres, c'était mon arrière-grand-père, finalement, avec un de ses fils qui s'appelle Louis Bordigoni, que j'ai connu, et voilà, il y a bien quelques années quand même, mais vous voyez, j'en ai aussi quelques-unes. Donc il y a eu plein de conventions qui ont été organisées. Il y en a eu dans la Drôme, il y en a eu partout dans la France, en Belgique, en Suisse. Ils sont venus, d'ailleurs c'est marqué dans ce bouquin, ils sont venus à Lausanne, ils sont venus à Genève, ils sont venus à Neuchâtel, à Bienne, à Blonay, dans le Jura bernois. On était à Reconvilier pendant presque 10 ans avec mon épouse. Et c'est drôle parce que quand j'ai relu ce bouquin, je me suis aperçu que mon arrière-grand-père avait prêché dans le même temple où j'ai prêché moi aussi, à l'église de Chindon, donc vers Reconvilier. Donc voilà, c'est juste intéressant de voir comme ça ces chemins qui se sont croisés. Il arrive dans toutes belles choses que voilà, il peut y avoir des difficultés, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est arrivé avec mon arrière-grand-père qui semble avoir eu une intimité un peu trop grande avec sa secrétaire. Ça s'est mal terminé, il a été renvoyé par les autres membres de l'équipe. Et ça a été, comme ils disent dans ce bouquin, une énorme déchirure en fait dans l'équipe. Cette trahison sera très mal vécue par plusieurs membres de ce groupe des brigadiers. Et l'un d'eux ira trouver le doyen de la faculté où il avait étudié à Montpellier. Et le doyen va lui raconter une histoire que je trouve aussi intéressante. Il lui dit ceci: « J'étais en montagne pour faire une marche avec des amis. » Et on a fait une pause en route. Et je me suis arrêté pour me désaltérer à une fontaine, j'imagine. Et puis, il a bu, enfin voilà, ça lui a fait du bien. Puis un de ses copains, il lui a dit: t'as vu le tuyau comme il est? Le tuyau qui amène l'eau? Il est tout pourri et tout rouillé. J'ai pris une image, je sais pas, voilà. On voit pas très bien, mais je sais pas si c'était celui-là, mais enfin voilà. Un tuyau tout pourri, tout rouillé. Et la morale de l'histoire, il lui dit, ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. L'eau est pure et bonne, ne regarde pas à celui qui a apporté le message, regarde à Dieu. Et je crois que là, il y a quelque chose d'important aussi. J'ai pas dit que tu étais un tuyau pourri et tout rouillé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais regardons vraiment à Dieu. Le mouvement va continuer à se répandre jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Là, ça va s'arrêter, en fait. Fin du mouvement. Alors, que tirer de tout cela pour nous aujourd'hui? Parce que toutes ces belles histoires, c'est toujours intéressant, mais enfin, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce que j'aspire à vivre un renouveau? Ou est-ce que je me contente, si je peux dire ça comme ça, d'une église qui ronronne? Ouais, je sais, hein, je sens les tomates arriver là. Est-ce que je me contente juste d'un nouveau ministère qui va mettre un élan? Ou bien, comme relevé par ce pasteur, je suis le premier converti au réveil. Je fais partie du mouvement. Si j'y aspire, est-ce que je suis prêt à en être le promoteur, à m'en saisir? Est-ce que je suis prêt à prier pour cela, même pendant toute une année? Qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui au sujet de son Église, ici à Villars, à Lausanne? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire, ou de vous dire? Vous n'êtes pas obligé de me dire. Peut-être que nous avons, et très certainement nous avons, les connaissances bibliques, historiques, théologiques, stratégiques, etc., etc., etc. Peut-être qu'il nous manque un peu le brin de folie prophétique, de dire, mais ouais, il y a un réveil qui est là, il faut s'en saisir. Peut-être qu'on a besoin d'un nouveau Victor, je ne sais pas. Assurément, je dirais, on a besoin de l'action de l'Esprit. On a besoin de laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Qu'est-ce qu'il a à cœur pour cette région, pour votre communauté, pour le ministère de Vincenzo, pour votre ministère en tant que communauté? Qu'est-ce que Dieu a à cœur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de déposer dans vos cœurs? Parce que c'est ça qui compte, c'est pas tellement des belles prédications ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de déposer dans vos cœurs? Si on n'est pas convaincu par le Saint-Esprit lui-même, on va travailler en vain. Et je reprends pour conclure cette citation qui se trouve en avant-propos de cet ouvrage, qui nous dit « Le réveil ne se fabrique pas. » On ne fabrique pas le réveil. Il se prépare dans la prière. Il est à accueillir comme un cadeau de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis des années, moi j'entends régulièrement « la moisson est prête, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. » Alors c'est bien de demander qu'il y ait des ouvriers dans la moisson, mais c'est peut-être nous les ouvriers dans la moisson qu'il faut envoyer peut-être. Et je dirais moi le premier, hein, je me mets dans le nous, hein, je vous rassure. Est-ce que tu veux être ouvrier dans la moisson préparée par Dieu lui-même? Et là, je ne vous demande pas non plus de répondre, au fond de vous. Est-ce que tu aspires à voir des conversions, des vies transformées? Ou bien est-ce qu'on se contente de ce que l'on est? Dieu ne se contente pas de ce que nous sommes. Moi, j'en suis convaincu. Il nous amène toujours plus loin, en fait. Il nous invite à relever le défi du réveil qu'il nous propose, à nous de l'écouter, de le chercher, de le prier et de s'en saisir. Alors, je ne vous demande pas de lever la main, mais qui est partant? Qui est partante pour le réveil, en fait? Amen. Je prie juste encore pour terminer. Seigneur, je te loue et je te bénis pour, c'est vrai, la redécouverte de ce bouquin, pour surtout ce qu'il contient, pour l'inspiration qu'il peut me donner, nous donner. Et je te prie pour que nos cœurs soient touchés par toi, Saint-Esprit, pour que ça ne soit pas quelque chose qu'on fabrique nous-mêmes, mais quelque chose qui est de l'ordre de ta mission et que, dans laquelle nous entrons. Nous nous laissons, appeler à entrer dans ta moisson. Nous répondons présents pour être des moissonneurs dans ta moisson. Et je te prie, Seigneur, que nos cœurs, que mon cœur soit touché par ton appel et puis qu'on se tienne là où tu es en train de faire quelque chose aujourd'hui, que ça soit à Lausanne, à Morges, en Suisse romande ou ailleurs dans le monde, mais vraiment qu'on soit là où tu nous appelles. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu viennes révéler à nos cœurs et à nos pensées et à notre intelligence, à notre être tout entier, quel est l'appel que tu as pour chacune et chacun d'entre nous. Dans ton nom puissant, Jésus-Christ. Amen.